Bé, l'acte d'avui, quan hem preparat aquesta exposició i les moltes activitats que s'han fet durant aquests dos mesos i mig, que ara acabem, vam pensar que ens havíem de reflectir les coses que la càtedra va fent durant aquests anys i les connexions que té amb altres grups i institucions. I un d'ells és amb l'Institut Nachmànides de Girona, del barri vell. Nosaltres fa molt temps que hi fem coses amb ells, hi fem cicles, amb gran satisfacció mútua, em sembla, oi? La senyora Sílvia Planes em podria desmentir, oi? I aquest any el cicle es titula, el cicle que comencem avui amb la senyora Embassa, es titula El judaïsme i l'opinió pública a l'Europa de la segona meitat del segle XX. Per tant, parlarem de judaïsme i opinió pública, a l'Europa de la segona meitat del segle. Per això ho vull recordar això expressament, perquè aquesta serà, la considerarem la primera conferència d'aquest cicle, que es fa aquí justament perquè l'organitzem amb la càtedra Ferrater Mora i està en aquest marc. Però les altres, que es faran, que seran el febrer, el març, l'abril i el maig, quatre més, es faran a la seu de l'Institut, al barri vell, pel carrer de la Força, em penso que s'entra pel carrer Sant Llorenç. I són, ho recordaran fàcilment, l'últim dijous de cada mes, l'últim dijous de febrer, el de març, d'abril i de maig. També volia dir que avui, 27 de gener, és des de l'any 2005, l'Assemblea General de les Nacions Unides va triar aquest dia com Dia Internacional de Record de l'Holocaust. I per tant és molt, diríem, casual. La veritat és que és casual perquè les dates que vam acordar les vam fer perquè la senyora Embassa podia venir, oi? Però és molt casual. Però va ser en aquesta data, un 27 de gener de l'any 45, i per tant ara fa 65 anys, que l'exèrcit soviètic va alliberar el camp d'extermini més gran que nazi que hi havia, el d'Auschwitz-Birkenau, a Polònia. I en commemoració d'això i de les víctimes i de la tragèdia que van representar el nazisme per multitud de gent, però especialment per al poble jueu, doncs es commemora aquest dia. I ara tinc el plaer enorme de presentar a la senyora Esther Benbassa. Ella és directora d'estudis a la secció de Ciències Religioses de l'École Pratique des Hautes-Études, on és titular de la càtedra d'Història del Judaïsme Modern. Va fundar el Centre Alberto Benveniste d'Études Sepharades et d'Histoire Socioculturelle des Juifs i des de llavors en porta la direcció. Aquest és un centre que arriba ara als seus 10 anys ja, i per tant és un centre reconegut i de prestigi i de referència. Té obres que són molt conegudes, Les Juifs ont-ils un avenir, els jueus tenen un futur, la majoria de les seves obres han estat traduïdes al castellà. La souffrance com identité, la souffrance com identitat, i Juif et musulman, une histoire partagée, un dialogue à construire, aquesta l'ha feta juntament amb el senyor Aties, el professor Aties, que també ens acompanya. La veritat és que com que vam pensar que potser algú podia tenir dificultats amb el francès, sembla mentida, quines coses que passen, oi? Però algú podia tenir dificultats amb el francès, hem posat traducció simultània, perquè ningú pogués tenir l'excusa de dir que jo no l'entendré. No, tothom l'entendrà, tenim traducció simultània, i nous sommes vraiment heureux et contents.
Moi aussi.
C'est vraiment formidable.
Merci de m'avoir invité.
Qu'on a pu organiser ça et soyez la bienvenue.
Merci.
Nous sommes vraiment honorés de votre présence et j'espère que après une heure ou comme ça de votre exposition, on pourra faire un petit colloque parmi tous.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là parce que j'avais visité cette ville il y a longtemps, il y a 20 ans, et aujourd'hui venir comme invitée pour vous faire une conférence me touche énormément. Je vais essayer de parler lentement pour que le traducteur puisse traduire facilement Et je vais vous faire d'abord une petite introduction pédagogique, tout simplement pour situer démographiquement le nombre de Juifs en Europe, afin qu'on puisse comprendre l'évolution de la presse à l'endroit des Juifs en Europe. Comme vous le savez, la France est le pays où il y a le plus de Juifs. Actuellement, le nombre varie entre 500 000 et 600 000. C'est une communauté qui vit en contact avec 5 millions de musulmans, d'arabo-musulmans. Donc c'est quand même le pays où il y a le plus de Juifs et de musulmans ensemble, souvent dans les mêmes quartiers. Quant à l'Angleterre, c'est à peu près 200 000 et les populations musulmanes qui sont en Angleterre ne sont pas des pays où les Juifs étaient originaires. Parce que, comme vous savez, le judaïsme français est composé de nombreuses vagues d'immigration. L'avant-dernière avait été dans les années 20-30, lorsqu'on avait fermé les frontières aux États-Unis en 1924. Les Juifs d'Europe de l'Est sont venus en France. Mais ils ne parlaient pas français du tout. La deuxième très grande vague d'immigration est celle des Juifs d'Afrique du Nord, avec les indépendances en Afrique du Nord à partir de 1957, Maroc, l'indépendance de l'Algérie, etc., la Tunisie. Et ces Juifs sont venus massivement. Les Juifs d'Algérie étaient français depuis 1870. Avec le décret Crémieux, ils étaient devenus français. C'est une différence quand même, puisque les Juifs d'Europe de l'Est étaient venus sans avoir la nationalité. Souvent, ils ne parlaient que le yiddish et ont eu plus de difficultés à s'intégrer. Tandis que les Juifs d'Afrique du Nord, majoritairement, les Juifs d'Algérie, à peu près 240 000 Juifs, sont venus français avec les pieds noirs qui quittaient les colonies. Et ils sont venus avec la fin de la colonisation, puisque c'est une constante dans l'histoire des Juifs que les Juifs partent toujours avec les forces colonisatrices. Pourquoi ? Parce que dans les pays où ils se trouvaient, dans le passé, les Juifs se mettaient du côté des colons pour avoir l'émancipation, pour avoir des droits. La preuve est que l'arrivée des Français en 1830 en Algérie a fait que les Juifs, 40 ans après, étaient modernisés, étaient français, ils fréquentaient les écoles françaises. D'ailleurs, leur arrivée en France va être une immense réussite économique et culturelle, puisqu'ils vont s'intégrer très vite parlant le français. Et ils sont venus, ben, je vais vous donner un exemple, le juif qui travaillait à la poste à Alger, il s'est retrouvé dans une ville française à la poste. Donc, enfin, c'était pas du tout, même si l'exil a été dur, ce n'était pas économiquement, un grand décalage, puisqu'on sait qu'une bonne partie des Juifs algériens étaient des petits fonctionnaires d'État. Pour la Tunisie et le Maroc, c'est différent. Les Juifs les plus pauvres sont partis en Israël. Et ceux qui étaient de milieux plus aisés, qui étaient dans les fonctions, dans les métiers comme avocats, médecins, etc., en Tunisie, ils avaient déjà eu la naturalisation française. Donc, il y a eu moins de Juifs tunisiens que Marocains qui sont partis en Israël. Tandis que les Juifs marocains sont massivement partis en Israël pour constituer avec le temps ce qu'on appellera le second Israël, puisque en Israël, ils ont été très mal vus et ils ont été parqués dans des villes dans le sud d'Israël, dans des villes de développement avec un chômage immense. Et les Israéliens, les fondateurs de l'État d'Israël, les méprisaient parce qu'ils n'avaient pas été sionistes. Il les méprisait. Et aujourd'hui encore, il y a un immense décalage entre les Juifs issus d'Europe et les Juifs venus du Maroc. Ils venaient du Maroc sans connaître, les femmes étaient illettrées, ils avaient 10-12 enfants. Vous voyez ça, ce n'était pas du tout le modèle des fondateurs d'Israël qui avaient été déjà modernisés bien avant. Alors donc, vous voyez que, enfin, je continue un petit peu le portrait, et c'est pour expliquer un petit peu les problématiques avec la guerre des six jours, etc. Sinon, on ne comprendrait pas ce problème jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, le judaïsme anglais, je vous ai dit, c'est à peu près 200 000, majoritairement venus de Russie, dans les villes du textile au 19e, ils sont installés dans les villes du textile au 19e siècle, Manchester, etc. Et les juifs qui sont venus, les juifs séfarades d'Angleterre, ce sont les juifs d'Espagne qui étaient partis d'Espagne. Il y a encore la grande synagogue espagnole à Londres, n'est-ce pas? C'était l'aristocratie juive. Mais les séfarades qui sont venus récemment en Angleterre, ce sont des juifs qu'on a appelés les Bagdadis. C'était des juifs d'Inde, mais qui eux-mêmes étaient venus de Bagdad en Inde et qui avaient constitué ces grandes familles comme les Saatchi, comme les Shampoins, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, Sassoun, les Shampoins Sassoun, etc. Enfin, c'est des grandes familles irakiennes qui avaient fait fortune en Inde et qui sont parties à l'indépendance lorsque les Britanniques ont quitté l'Inde. Les autres judaïsmes ont été décimés pendant la guerre. Le judaïsme allemand n'existait quasiment pas, et ce sont les juifs russes qui, au lieu d'aller en Israël, ils sont passés par Vienne et se sont installés en Allemagne. C'est une communauté russophone, majoritairement, avec à peu près 20 à 30 000 juifs, dont une partie même des Israéliens qui sont venus d'Israël pour s'installer en Allemagne. Les juifs de Hongrie, c'est un grand mystère. Les juifs de Hongrie des provinces avaient été tués pendant la guerre, puisqu'ils étaient ultra-orthodoxes, et on les a attrapés immédiatement, puisqu'ils étaient visibles, tandis que les juifs de Budapest ont résisté. Et il y a, enfin, on ne va pas raconter l'histoire des juifs de Hongrie, mais en Hongrie, on ne sait jamais combien de juifs il y a, parce qu'on dit qu'il y a 200 000 juifs qui seraient juifs alariquement, selon la loi, juifs à moitié au quart ou à un dixième. Mais normalement, juifs alariquement, venant de mères juives, il y a 40 000. Alors, aux Pays-Bas, les juifs ont été décimés, il y a une communauté de 10 000. En Europe de l'Est, c'est insignifiant, quasiment insignifiant, 3 000 en ex-Yougoslavie, qui sont partis d'ailleurs pendant les événements dans les Balkans récemment. Donc, il y a le judaïsme le plus important quand même, c'est le judaïsme, enfin en Suède, en Norvège, etc., quasiment rien. En Espagne, la même chose. Les juifs d'Espagne viennent de Tanger, de Tétouan, etc. C'est une immigration, disons, après l'indépendance, et aussi des juifs qui ont échappé à la guerre et qui sont venus ici. Mais enfin, bon, c'est pas un nombre très important. En revanche, la France pose de vrais problèmes parce que ce sont deux grandes communautés arabes et juifs qui sont en nombre très important et en proximité. Parce que même s'il y a le mythe que les juifs sont riches, les juifs venus d'Afrique du Nord n'étaient pas riches. Alors, ben, ils avaient tout laissé. Ils se sont installés pour la plupart dans les banlieues, comme Sarcelles, etc., toutes ces banlieues, est et nord, et qui habitaient dans les mêmes immeubles que les ouvriers marocains, algériens, tunisiens, venus pour travailler. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu très longtemps, jusqu'à la fin de la première intifada, pas de grand clash. Il n'y avait pas de séparation entre les juifs et les arabes, qui étaient comme eux, étaient pauvres, faisaient des petits métiers, etc. Mais se recevaient. Sarcelles était une ville de cohabitation avec des hauts et des bas. Ce n'était pas des frères tout le temps, mais il n'y avait pas ce qui arrive aujourd'hui. Et en même temps, on peut dire que ces Juifs venus d'Afrique du Nord étaient mal vus par les Juifs locaux aussi. Les Juifs ashkénazes les appelaient les Schwarze, les Noirs. Hein? On les appelait les Noirs, pourquoi? Eh bien, parce que pour eux, ils n'étaient pas civilisés. Ils venaient d'Afrique du Nord, ce n'étaient pas des Juifs civilisés. Et, sauf que ces Juifs d'Afrique du Nord, des Juifs qui avaient connu la guerre en Algérie pendant 2 ans, etc., mais vous savez que l'Afrique du Nord a été libérée par les Américains très tôt. Et il n'y a pas eu de massacre. Ils ont eu, bien sûr, le numerus clausus pendant 2 ans. Ils ne pouvaient pas fréquenter les écoles. Il y avait un taux de Juifs qui pouvaient fréquenter les écoles, etc. Mais ces Juifs sont arrivés en France avec leur savoir-faire, leur façon de vivre. On les appelait les Juifs ensoleillés. Hein? C'était des gens qui avaient connu la guerre, mais pas beaucoup, qui n'avaient pas la même notion que les Juifs de France, qui étaient Juifs à la maison, mais dehors, pas Juifs. Il ne fallait pas, parce que ces Juifs avaient connu la guerre, avaient payé le prix fort. Vous savez que sur 320 000 Juifs, 73 000 sont morts en déportation en France. Donc, ça faisait que le judaïsme français n'avait plus de 109. C'est pour ça qu'ils ont reçu les Juifs venus d'Afrique du Nord bien, mais en même temps, ils les méprisaient aussi, comme en Israël. Mais on a quand même construit des centres communautaires, des synagogues, des oratoires, etc., parce que ces Juifs qui venaient d'Afrique du Nord étaient traditionnalistes, mais pas orthodoxe, puisque dans la tradition séfarade, il n'y a pas d'orthodoxie. Hein? Il n'y a pas Peyesh, Trémil. Bon, ça, c'est un judaïsme ashkénaze, n'est-ce pas? C'est un mouvement né au XVIIIe siècle, le chassidisme. Au XVIIIe siècle, on voit encore à Jérusalem et à Tel Aviv, à Jérusalem, Mea Shearim, à Tel Aviv, Bnei Brak, où habitent ces Juifs orthodoxes. En monde séfarade, il n'y a pas d'orthodoxie, mais il y a un judaïsme traditionnel. Les Juifs d'Afrique du Nord, quand ils sont venus en France, ils étaient traditionalistes, à savoir, ils ne faisaient pas cette différence, je suis juif à la maison, je ne suis pas juif dehors, pas du tout. Ils se promenaient avec des chadaïs en ville, ils réclamaient leur judéité, ils l'en montraient, ils mangeaient kasher, ils faisaient les fêtes, et ils ont revigoré ce judaïsme ashkénaze qui avait été, n'est-ce pas, décimé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la réussite de ces Juifs va être rapide. Commencer dans les petites banlieues, ces Juifs vont avoir une réussite exceptionnelle en peu de temps en France, parce qu'ils connaissaient le français, ils étaient français. Et ceux qui venaient de Tunisie et du Maroc, en général, pas toujours, c'était quand même une petite aristocratie. Quand je dis aristocratie, des gens qui avaient fait un peu d'études ou des gens qui avaient des métiers. Sinon, les autres étaient partis en Israël. Donc, c'est dans ce contexte que éclate la guerre des six jours, en juin 1967. La veille de la guerre, des intellectuels français comme Claude Lanzmann, qui a écrit le livre, qui a fait le film La Shoah, avait donné une interview dans le journal Le Monde disant « Si Israël perd la guerre, ça sera un second holocauste ». Alors, pourquoi ? Pour la première fois, les Juifs pensaient que Israël pouvait perdre la guerre. Il y avait eu cette annonce d'un Palestinien, maintenant on sait que ce n'est pas vraiment vrai, mais qui avait déclaré « si on gagne la guerre, on va les jeter dans la mer ». C'était une phrase qui n'avait pas attiré l'attention au début, mais après ça a beaucoup influencé les Juifs. Et n'oublions pas que les Juifs venaient d'arriver d'Afrique du Nord en France. ils avaient peur de nouveau qu'il arrive quelque chose en Israël et qu'une partie de leur famille soit de nouveau en exil. Tous ces éléments ont fait que la guerre des six jours a été vue comme un possible second holocauste. Alors, jusque-là, on sait que les Juifs d'Afrique du Nord ne parlaient jamais de l'Holocauste jusqu'aux années 1980. Les Juifs de France n'avaient pas demandé qu'on reconnaisse l'Holocauste, puisque jusqu'aux années 80, on parlait des déportés et pas des victimes du génocide. On parlait des déportés. Déportés, on n'était pas obligatoirement juifs. C'était des déportés politiques, des communistes, etc. Alors, c'est dans ce climat que, pendant la guerre des six jours, la France soutient Israël contre les Arabes. Pourquoi ? C'était aussi la décolonisation. Les Français étaient rentrés en métropole, avaient quitté l'Algérie devenue française. Ils détestaient les Arabes, puisqu'ils disaient que c'est à cause des Arabes qu'ils sont en France, qu'ils sont revenus, parce qu'ils avaient des situations. L'Algérie, la Tunisie, même si la Tunisie et le Maroc étaient des protectorats, c'était devenu des secondes patries pour ces Français qui habitaient là-bas. Alors, ils détestaient les Arabes. Les Juifs détestaient aussi les Arabes parce que ils disaient qu'ils avaient quitté leur paradis à cause des Arabes. Alors vous voyez que c'est dans ce climat que se déroule la guerre des six jours. Et quand Israël gagne la guerre, c'est une sorte de grande joie qui traverse toute la France, et les Français non-juifs soutiennent les Juifs et Israël continue à le soutenir. Bien sûr, dans ce climat, la lune de miel avec les Français, pas de problème. Et peut-être c'est un peu compliqué. Est-ce que je parle trop vite ou vous me comprenez? Vous arrivez à me suivre, Monsieur le traducteur, Madame la traductrice, vous arrivez à me suivre? Très bien. Alors, non, mais parce que si je parle pour que personne ne suive, c'est pas la peine. Surtout que j'ai pas de voix. Dans une demi-heure, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Alors donc, je finis vite. mon discours. Donc, c'est dans, comme je vous l'ai dit, c'est dans ce climat que les Juifs, pour la première fois, profitant de cette joie, de cette liesse qui traverse la France, dans un pays républicain, où, selon la République, il n'y a pas de différence, tout le monde est français, il n'y a ni juif, ni arabe, ni rien, ce qui est faux, mais la République croit toujours que c'est vrai, c'est dans cette atmosphère que les Juifs demandent, pour la première fois, qu'on reconnaisse leur identité. Mais, comment ils font? Ils disent, nous voulons une reconnaissance du génocide, et en passant par le génocide, ils demandent la reconnaissance de leur judéité. C'est une première en France. Alors pourquoi? Parce que les Juifs, pendant la guerre, ils ont vu que le contrat de la République avait été rompu, puisqu'ils étaient français, mais c'est eux à qui on avait enlevé la nationalité française dès 1942 et on les avait déportés. Alors, il n'y avait plus de contrat avec la France. Ils demandent la reconnaissance du génocide, de la Shoah et de leur identité. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les arabo-musulmans en France, tous les groupes, les Africains, se servent du modèle juif pour demander la reconnaissance de leur identité. Regardez les Noirs, par exemple. On a eu la loi Taubira en France. C'est une loi qui a permis la reconnaissance de l'esclavage comme comme crime d'humanité, exactement en passant par les lois de Nuremberg. C'est exactement, c'est ça. Et puis la France, en 1995 seulement, Chirac va reconnaître que l'État français était responsable du génocide. 95. Et alors, à ce moment-là, on va rentrer dans l'ère du communautarisme, à savoir que les Juifs vont revendiquer leur judéité et tous les autres groupes vont demander d'être reconnus de la même manière. Mais comme en France, revendiquer sa mémoire, ben, il n'y a pas de place pour toutes les mémoires dans la République, puisque la France est un pays très nationaliste qui pense qu'on ne peut être que français et seulement français. Alors, ça fait que il y a la guerre des mémoires entre les Noirs, les Arabo-musulmans, les Français, enfin les Français, les anciens colons qui sont rentrés, donc les pieds noirs, les Juifs, etc. Et la mémoire du génocide va occuper une place tellement importante qu'il n'y aura pas de place pour les autres mémoires. Alors, en cette période de lune de miel, eh ben, tous les journaux, toute la presse est pour les Juifs. Jusqu'à novembre 1967, où De Gaulle, nous avons cette déclaration de De Gaulle qui parle des Juifs comme un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. C'est à ce moment-là que les Juifs, beaucoup de Juifs, pensent que De Gaulle avait été était antisémite. Alors c'est une première petite rupture entre les Juifs et la France. Enfin, la grande rupture s'était faite pendant la Shoah. Les Juifs, il y avait eu l'affaire Dreyfus, puis il y avait eu la Shoah, et là c'était une des dernières, un début de rupture. Lorsque De Gaulle parle de ces Juifs d'une manière dépréciatrice, il y a Raymond Aron qui écrit un livre sur Israël. Il y a une prise de conscience qu'en France, quoi qu'on fasse, on reste juif. La guerre de Kippour en 1973, l'intervention au Liban. La première intervention au Liban en 1978 d'Israël, et puis la répression qui a suivi, la répression qui a précédé la pré-intifada en 81, et Sabra Shatila, le massacre de Sabra Shatila en septembre 82, vont faire qu'il y aura entre la France et les Juifs un début de vraie rupture. Parce que désormais, vous savez, quand Israël a été fondé, en France, on n'a pas beaucoup parlé dans les années 48. Et les Juifs sortaient de la guerre, n'avaient pas envie de parler beaucoup. Ils voulaient se reconstruire, se remarier, faire des enfants, recommencer une nouvelle vie. Mais la guerre de Suez, déjà en 1956, commence à faire parler d'Israël, parce qu'il y a aussi l'arrivée des Juifs d'Égypte, qui ont quitté l'Égypte après la guerre de Suez, sont venus en France. Donc vous voyez, tous ces éléments se réunissent et font que doucement, il y aura un basculement de l'opinion nationale, en Europe en général, très lentement, en ce qui concerne le soutien des Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs, désormais, s'identifient à Israël. Et ce n'était jamais arrivé. Quand vous regardez le 19e siècle, les Juifs de France, la fédération sioniste en France, c'était elle qui avait le moins de membres juifs. Enfin, des Juifs qui adhéraient au sionisme étaient très rares. Quand la Ligue des antisémites, où Drummond avait fait une association pour que les Juifs partent en Palestine, parce qu'il voulait se débarrasser des Juifs, il y avait plus de membres dans l'association antisémite que dans la fédération sioniste. Les Juifs ne connaîtront les sionistes que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le maquis, dans la résistance. Sinon, jusque-là, le sionisme, en France, on disait, il vaut mieux ne pas être sioniste parce qu'on va nous accuser de double allégeance. Mais à partir de la guerre des six jours, les Juifs s'identifient à Israël et cela fait que chaque critique d'Israël devient un véritable problème. Tout ce qui, doucement, pas encore, mais plus tard pendant la seconde intifada, tous ceux qui vont critiquer Israël vont être considérés comme des antisémites. Alors cette identification à Israël fait que l'identité des Juifs, désormais, c'est la Shoah et Israël, les deux. Parce que beaucoup de Juifs ne sont plus religieux. Les Juifs qui sont venus d'Afrique du Nord, lentement, ils se sécularisent. Les grands-mères, les grands-pères meurent, on ne mange plus les plats typiques de la famille, on ne fait plus les fêtes comme avant. Il y a un décrochage avec la tradition. Alors, l'identité des Juifs devient Israël et l'Holocauste. Et en même temps, en Israël, l'arrivée du Likoud, le parti de droite d'Ariel Sharon, en 1973 au pouvoir, fait que désormais, pour le Likoud aussi, le point principal, c'est de faire prendre conscience de la Shoah à tous les Israéliens. Pourquoi ? Parce que désormais, la nouvelle politique, après 67, c'est justifier l'occupation des territoires. Il faut justifier. Comment justifier ces territoires? C'est de dire, voilà, ces territoires, c'est pour notre sécurité. La grande phrase de Begin, ça sera, si on ne défend pas nos frontières, ça sera un second Auschwitz. D'ailleurs, même un travailliste comme Abba Even, au lendemain de la guerre des six jours, dira... Voilà, ces frontières, donner ces territoires, c'est revenir aux frontières d'Auschwitz. C'est un travailliste, ce n'est pas la droite encore. Avec la droite, l'Holocauste arrive au centre de la politique israélienne. D'ailleurs, chaque chef d'État qui se déplace en Israël, on l'amène d'abord à Yad Vashem. Il va à Yad Vashem et après, on parle de ce qui ne va pas. Alors, une fois que le type a été à Yad Vashem, vous savez, c'est dur, Yad Vashem. Alors, à ce moment-là, tous les chefs d'État s'inclinent, parce que c'est insupportable. Regardez en Allemagne, quand vous regardez un petit peu, même les livres qui sortent en Allemagne, il est difficile de critiquer Israël en Allemagne. Ce n'est pas possible de critiquer Israël. Hein? Quand vous faites un livre et on vous traduit, on vous dit toujours, vous ne pouvez pas enlever un peu ça, et vous ne pouvez pas enlever un peu ça, parce que vous savez, on met des images pour ne pas choquer, parce qu'on ne sait jamais, on peut choquer l'opinion publique, pas les Juifs, l'opinion publique. Tandis qu'en France, cette adhésion entre les Juifs et Israël a fait que les Juifs sont devenus le soutien d'Israël, ils sont légitimistes, les Juifs français. À savoir, aujourd'hui, c'est la gauche, ils deviennent de gauche. Demain, c'est la droite, ils deviennent de droite. Alors, ça fait qu'il n'y a jamais de distanciation. Tous les espoirs des Juifs français, c'est Israël. Ils achètent des maisons aujourd'hui, qu'ils gardent fermées pendant 11 mois et demi, en général, ou 11 mois, ils ont fait monter les prix des appartements en Israël, puisqu'ils achètent massivement des appartements. Israël, ça n'a rien à voir avec les Juifs américains. Il y a la distance géographique. Les Juifs américains ne vont pas en Israël tout le temps. En France, les Français, ce sont les Juifs les Juifs français sont les Juifs qui visitent le plus Israël. Aujourd'hui, il y a même des Juifs français qui habitent Israël et travaillent à Paris, et ils viennent toutes les semaines. Quand vous voulez acheter un billet pour Tel Aviv, il faut vous y prendre 3 mois à l'avance. Oui. Alors, donc, vous voyez que ce lien avec Israël est indéfectible au sein du judaïsme français, et particulièrement chez les Juifs issus d'Afrique du Nord. Avec un rejet de l'arabe qui continue. D'ailleurs, qui est-ce qui a voté droite en Israël? Allez, dites-moi un peu. C'est vous qui répondez maintenant. Alors, qui est-ce qui a voté massivement droite en Israël? Ben, les séfarades. Les juifs venus des terres d'islam, parce qu'ils avaient été méprisés. Quand ils sont arrivés, on les a mis sous des tentes pendant 7-8 ans, même plus. On ne leur a pas donné du travail. Souvent, ils essayaient de changer leur nom parce que leur nom était trop oriental et mal vu. Ils ne trouvaient pas de travail. On s'était servi de ces juifs comme cobayes. Tout ça a fait que ces juifs orientaux ont voulu se venger du Parti socialiste, du Parti travailliste, qui les avait traités de cette façon, et ils ont voté massivement la droite. Et aujourd'hui aussi, il y a un parti des juifs orientaux très à droite. Ils ont formé un parti très à droite. Donc, vous voyez quand même que ces choses sont très complexe. Plus le soutien à Israël augmente, moins les Juifs de France supportent les critiques d'Israël. Et quand la première intifada commence, en 1987, l'opinion publique française, non-juive, commence à basculer de l'autre côté. Il commence à basculer doucement vers les Palestiniens, vers la cause palestinienne. On va dire aussi que avec le mur qui tombe, le mur de Berlin, les idéologies tombent en même temps. Il n'y a plus d'idéologie. La nouvelle idéologie aujourd'hui, pour beaucoup, c'est le conflit israélo-palestinien, donc la cause palestinienne. Peut-être ici, vous vivez ça moins, mais dans des pays comme la France, c'est patent. Il y a un vrai mouvement pro-palestinien, juste, un mouvement juste, mais aussi parfois radical. Parce que certains confondent le soutien à la cause palestinienne et le rejet des Juifs. L'antisémitisme. Mais pas tous, c'est vrai. Sauf que Ariel Sharon avait pensé que ça serait bien que les Juifs français émigrent en Israël. Hein? Après l'émigration éthiopienne, russe, etc., il n'y avait plus d'émigration en Israël. Alors, il s'est servi, le Likoud, donc le parti de droite, à mobiliser les institutions juives pour que les Juifs partent en Israël. Quelle était la raison donnée? Un grand antisémitisme. Beaucoup de Juifs sont partis, mais beaucoup, ça veut dire 3000 au lieu de 1500 tous les ans. Pour que 600 000 Juifs partent, il nous faut quand même plus d'un siècle. Hein? N'empêche que cela a créé une peur, et les Juifs se sont enfermés sur eux-mêmes, ils se sont repliés en se disant qu'il y a de l'antisémitisme partout. C'était de la propagande. Mais cela n'empêche pas qu'il y a de l'antisémitisme. Avec la première intifada, cela commence. L'opinion publique européenne non-juive bascule, surtout avec cette caméra qui se braque sur deux soldats israéliens, jeunes soldats israéliens, qui sont en train de faire de la violence à un Palestinien de leur âge. Cela va choquer l'opinion publique européenne. Cette sauvagerie des soldats. Ensuite, quand débute la deuxième intifada en 2009, quand la seconde intifada commence en 2000, il y a un vrai changement dans l'opinion publique. Désormais, la cause palestinienne est devenue une vraie idéologie. On rejette le comportement d'Israël à l'endroit des Palestiniens. Les Israéliens continuent à dire que si on ne fait pas ce qu'on a fait, ça sera de nouveau la Shoah. Donc, vous voyez, des deux côtés, tout cela commence à faire son effet. Et qu'est-ce qu'il arrive? À un moment donné, l'opinion publique se retourne lentement d'Israël. Mais la presse, qui est bien sûr notre... c'est un petit peu le baromètre. La presse suit tout ça. Hein. La presse suit tous ces mouvements d'accrochage et de décrochage. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, en Europe, la presse a peur des institutions juives. Parce qu'ils s'imaginent que les institutions juives peuvent leur faire du mal. Les institutions juives ne sont pas si fortes que ça. Mais elles sont bruyantes. Elles font beaucoup de bruit. Alors ça fait que aucun journaliste n'a envie d'être traité d'antisémite. À un moment donné, pendant le début de la seconde intifada, on a commencé à faire des procès aux journalistes pour antisémitisme. Des gens de la communauté faisaient des procès aux journalistes. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est la plaie, c'est la lèpre. Être antisémite, c'est comme être lépreux au Moyen-Âge. Alors, personne n'a envie d'être traité d'antisémite. Alors, on a ça dans la presse qui est souvent assez bienveillante pour Israël. Ça, on le voit toujours. Dans la presse, on voit ça, comme je vous l'ai dit, la guerre des six jours, ça a été le grand amour. Après, ça décroche. Quand il y a Sabra Shatila, la presse en parle beaucoup, mais toujours avec cette peur. La peur, c'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas l'Europe qui va proposer des conditions de paix à Israël, c'est pas possible. L'Europe, c'est le lieu du crime. C'est là que s'est passé le génocide. Aucun chef d'État aujourd'hui n'est capable ouvertement de dire à Israël, ça suffit. C'est pas possible. Les journalistes agissent de la même façon. Les journalistes essayent de ne pas tomber dans les pattes des institutions juives. Parce que c'est vrai, les institutions appellent. Ce monsieur, pourquoi il a dit ça? Alors on lui répond, oui, mais il a dit ça, mais il a dit autre chose aussi. Ah non, vous êtes comme ça et vous êtes comme ça. Et puis il y a toutes les institutions sans arrêt qui disent, la presse est contre nous, la presse soutient la Palestine, la presse ne nous aime pas, la presse est antisémite, les Français sont antisémites, les Arabes sont antisémites, ainsi de suite. Donc la presse se fait de l'autocensure sans arrêt. En Europe, vous avez une presse, plus en Allemagne qu'en France, qui sans arrêt fait l'autocensure. Parce qu'elle a peur. Je crois qu'elle a plus peur que la réalité. Parce que, en réalité, le CRIV qui représente les Juifs, c'est rien du tout. Mais le problème est que les idées des institutions sont relayées par des journalistes, parfois, par des journalistes juifs eux-mêmes, qui prennent parti pour Israël. Comme je vous ai dit, la réussite des Juifs d'Afrique du Nord a été très importante, dans la presse aussi, puisque c'était des intellectuels. Les Juifs, en France, font plus d'études que la moyenne des Français non-juifs. Donc ça fait que ces gens étaient dans les médias. Alors ils ont relayé ce message de soutien à Israël. On traitait souvent le président Jacques Chirac d'être pro-arabe, donc de ne pas aimer les Juifs. Après, aujourd'hui, on dit Sarkozy est notre ami, les Juifs ont voté massivement Sarkozy. Depuis Chirac, les Juifs votent massivement droite. Quand vous regardez les statistiques en général, les Juifs dans le monde entier votaient gauche. La preuve, ils votent gauche, ils votent démocrate en Amérique. Ils ont voté à 67% Obama. Donc, vous voyez quand même que il y a la presse suit le mouvement. La presse, en Amérique, c'est différent, mais en France, si la presse est peureuse comme ça, c'est aussi parce que la communauté juive est importante et elle peut faire pression. Mais d'ailleurs, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de cette pression puisqu'ils se font pression eux-mêmes. Hein? Bon, alors, si on avance un petit peu, on va voir que aujourd'hui, l'image des Juifs dans la presse est dévalorisée. C'est une image négative liée à Israël. Parce que si les Français non-juifs disent « arabe égale musulman, musulman égale terrorisme », etc., eh bien, les Juifs vont dans ce sens. Les Juifs aujourd'hui, eux qui ont défendu tous les pauvres, tous les ouvriers, eux qui ont été dans tous les mouvements socialistes au XIXe siècle, qui ont été des anarchistes, qui ont été des marxistes, qui ont été des socialistes, aujourd'hui, les Juifs, en général, en Europe, sont devenus de droite. Et ils votent droite. Pourquoi ? Ils votent contre l'islam. Parce que d'abord, les Juifs sont devenus bourgeois, ça joue aussi. On vote avec sa poche, hein. On ne vote pas avec ses idées, on vote suivant sa poche. C'est vrai, mais en même temps, c'est lié aussi à la peur de l'islam. Parce que les Juifs, s'identifiant à Israël, s'identifient à tout ce qui est rejeté par Israël. Le Palestinien est l'ennemi d'Israël, l'Arabe en Europe est l'ennemi des Juifs. Ils sont vus comme ça. Et aussi mécanique que ça. Alors c'est pour ça, on a voté Sarkozy, ami des Juifs, bon, considéré comme tel, qui est contre l'entrée de la Turquie, donc contre l'islam, qui est contre les musulmans, puisque la France aujourd'hui lance des campagnes, même Sarkozy, sans attendre l'extrême droite, aujourd'hui, l'objet de rejet de haine en France, c'est le musulman. C'est le noir aussi, mais s'il est musulman. S'il n'est pas musulman, c'est le bon africain. C'est le bon africain. Il y a les affiches, vous savez, les affiches qui colonialisent des années 30, le montrer, il y a Banania, il était toujours rigolo. Ah, c'est dans les mentalités, mais à côté de ça, le musulman est vu comme cruel. Ah, c'est tout l'imaginaire. Hein? Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Si vous êtes noir, pas musulman, c'est bien. Bien, pas bien, mais moins que ce rejet qu'il y a contre l'islam en France. Et les Juifs soutiennent cette politique. D'ailleurs, lorsqu'on a renvoyé les Roms, tout le monde était étonné. Les Juifs ont soutenu. N'ont rien dit, et le grand rabbin de France a soutenu Sarkozy qui renvoyait les Roms dans leur pays. Voilà. Alors, cette droitisation des Juifs en France est directement liée à la droitisation de la politique israélienne. Comme je vous ai dit, les Juifs de France suivent la politique israélienne. Alors, c'est vrai aussi, on ne va pas non plus être tout à fait irénique et dire, voilà, les musulmans, c'est magnifique, les pauvres, ils sont rejetés par tout le monde, etc. Il y a un retour aussi des musulmans à l'islam. Il y a de l'antisémitisme parmi les arabo-musulmans, puisque les arabo-musulmans s'identifient eux-mêmes aux Palestiniens. Ils s'identifient aux Palestiniens et en plus, ils glorifient le martyr palestinien, ceux qui se battent pour leur cause, parce qu'eux, ils sont discriminés, ils n'arrivent pas à réussir, on les empêche de réussir, ils ont une mauvaise éducation, parce que l'État ne leur donne pas, enfin, ne les aide pas à acquérir une éducation comme les autres. Il y a le racisme en France, il y a l'islamophobie en France, exactement comme il y a eu l'antisémitisme au XIXe siècle en France. Au XIXe siècle, toutes les critiques contre le juif, on les retrouve aujourd'hui contre le musulman, sauf l'argent. L'argent, les musulmans n'en ont pas. Au XIXe siècle, c'était Rothschild, c'était le capital juif, etc. Mais la presse, en revanche, reste plus neutre à ce niveau. La presse reste descriptive, n'attaque jamais les juifs sur ces points-là. Mais après la guerre, la riposte de Gaza, il y a eu un changement quasi total. À savoir que, pour la première fois, Israël a perdu la guerre des médias. Toutes ces images d'horreur qui sont venues, tout ce que les Israéliens ont fait à Gaza, ça s'est répercuté. Ces images sont arrivées à l'opinion publique française. Et la presse a été très perméable à ces images. On a beaucoup parlé, les a beaucoup montrées. Et en Europe et en Amérique, Israël a perdu la guerre des médias. Je ne sais pas si Israël a gagné la guerre de Gaza, je ne sais pas, personne n'a gagné. On a tué des civils, beaucoup de civils, mais la guerre des médias, qui est la guerre la plus sensible d'Israël, a été perdue. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Moi, je suis une historienne du sionisme. Le sionisme n'a marché qu'en faisant de l'endoctrinement chez les petites gens, chez le peuple. On ne faisait pas chez les grands. On allait dans les synagogues. On disait, voilà, vous êtes religieux, mais vous voyez, la Terre Sainte, c'est Israël. Ça va à Palestine à l'époque. Ainsi de suite. Et la presse, par exemple, dans les Balkans, les sionistes achetaient la presse pour entrer dans les populations qui ne connaissaient pas le sionisme. Et aujourd'hui, perdre la guerre des médias, c'est une perte très forte, puisque c'est perdre ses alliés. Aujourd'hui, Israël a des alliés que dans la presse juive, qui, elle est anti-arabe, anti-musulmane, anti-critique, anti-gens qui pensent, anti-tout. Et renforcée par un groupe d'intellectuels organiques qui ne sont pas des imbéciles du tout, des gens très cultivés, qui sont tout le temps en train d'attaquer la presse française ou la presse ailleurs en disant, voilà, ils sont contre les Juifs, ils sont contre les Juifs. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la presse, on ne peut pas savoir ce qui est contre les Juifs ou contre Israël. Ça s'est mélangé. La presse n'est pas anti-juive. Mais les Juifs, chaque critique, ils la prennent comme si la presse était anti-juive. La presse n'est pas antisémite, parce qu'il y a des lois. Il y a des lois contre l'antisémitisme. La presse ne peut pas se lancer. Mais n'empêche qu'il y a cette confusion entre Israël et les Juifs. Les Juifs, ayant cette forte... Enfin, ils se voient dans... Enfin, il faut, je ne sais pas si vous regardez un petit peu, peut-être ça ne vous intéresse pas, parce que ça n'intéresse que les gens qui habitent ces pays-là. Chaque mot de la presse est étudié, analysé pour être immédiatement critiqué. Alors, vous voyez dans quelle situation la presse fonctionne aujourd'hui. Et je vais dire que... Israël-Palestine, le conflit Israël. Aujourd'hui, la presse ne s'intéresse pas aux Juifs. Voilà, c'est ma conclusion. Elle s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Si, dans les années 30, la presse ne s'est intéressée qu'aux Juifs, parce qu'il y avait la propagande antisémite, aujourd'hui, les Juifs n'intéressent pas la presse. Ce qui les intéresse, c'est le conflit israélo-palestinien. Dans toute l'Europe, dans toute la planète, le conflit israélo-palestinien est un des conflits les mieux documentés du monde. Pourquoi ? On peut dire qu'il y a des raisons pour cela. C'est le berceau des trois monothéismes. La région est le berceau des trois monothéismes. Il y a les lieux saints. Et puis, comme vous le savez, avec tous ces événements, il y a cette sorte de... Il y a un attentat en Israël, toute la presse va soutenir Israël. Le lendemain, on va tuer 15 Palestiniens, on va s'intéresser aux Palestiniens. Ainsi de suite. Et moi, je dirais que peut-être les institutions n'ont pas raison. Les journalistes s'intéressent plus à Israël qu'aux Palestiniens, parce que les Palestiniens ne savent pas faire de la communication. Et ils ont toujours fait leur communication dans les médias très mal. Hein? Ils se sont toujours très mal arrangés pour faire leur publicité. Alors je dirais que, en revanche, si la presse n'est pas antisémite, ça c'est absolument vrai, mais il y a des sites antisémites. Aujourd'hui, les médias, ce n'est pas seulement la presse écrite. C'est aussi les sites Internet. Il y a de nombreux sites Internet qui sont logés ailleurs que dans le pays pour ne pas tomber sous la loi et qui sont d'un grand antisémitisme d'extrême droite. Et parfois, il y a des sites qui sont, que nous appelons les laïcistes. Ils sont pour la laïcité, pour la République. C'est une gauche qui doucement est devenue de droite. Je ne parle pas de toute la gauche, je parle de ces groupes qui défendaient une France unie, sans minorité, qui tombent dans ce rejet du juif, du musulman, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, si on devrait, mais c'est quand même très généralisé, n'est-ce pas, ce que je dis, on dirait que la presse est plus contre les musulmans que contre les juifs. Les campagnes nationalistes en France ont fait qu'il y a quand même une incompréhension de l'islam, une peur après le 11 septembre, une peur de l'islam, une peur du terrorisme qui n'est pas fausse, d'ailleurs, il y a une peur du terrorisme, et qu'on ne veut pas, on ne veut pas se conduire avec les arabo-musulmans en Europe comme on s'est conduit avec les juifs après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'arabo-musulman, pas seulement en France, un peu partout, c'est le juif du 19e, le juif des années 30. Et ça, c'est vraiment un tableau qui apparaît au quotidien. Mais, au-delà de cela, c'est le conflit qui intéresse tout le monde. Parce qu'on dirait que ce conflit, c'est une sorte de catharsis. Je ne sais pas de quoi, mais une catharsis qui sans arrêt tourne sur elle-même et elle n'arrête jamais de parler de ce conflit. Alors peut-être qu'un peu de silence des médias ferait du bien aux Palestiniens, aux Israéliens, pour qu'ils arrivent un jour à régler leurs problèmes. En tout cas, comme il n'y aura pas un règlement demain, donc soyons pessimistes. Ça vaut mieux. Nous serons peut-être agréablement surpris si les choses changent. Mais dans cette ambiance, je ne crois pas qu'il y a une possibilité que les choses changent, que l'Europe intervienne, peut-être l'Amérique. Mais alors là, on est dans la seconde partie du mandat d'Obama. Je ne crois pas qu'il y aura grand-chose. Et les juifs américains, en plus, n'ont pas du tout la même attitude. J'ai écrit un livre, enfin, qui n'a pas été traduit en espagnol, mais qui a été un best-seller en France, qui s'appelle « Être juif après Gaza ». Et dans ce livre, je montre comment, d'après les statistiques, les juifs américains, 67% des jeunes juifs américains, disent que la disparition d'Israël ne leur poserait pas de problème. Alors ça, c'est des chiffres assez problématique, ce qui montre que la critique d'Israël gêne beaucoup de jeunes Américains dans les universités, parce que les universités sont assez pro-palestiniennes, et d'un côté il y a des universités pro-israéliennes, c'est tout le temps la guerre, et peut-être que les Juifs en ont assez que ce conflit se répercute là où ils vivent en diaspora. Les Juifs américains sont plus capables de vivre par eux-mêmes. Tandis que le judaïsme français n'est pas un judaïsme créatif, ne parlons pas des autres qui ne sont pas du tout créatifs, le judaïsme européen a plus besoin d'Israël pour exister. Tandis que le judaïsme américain peut exister tout seul avec ses mouvements religieux, libéraux, moins libéraux, plus libéraux. Enfin, il y a en Amérique une grande créativité juive qu'il n'y a pas en Europe. Puisque, bien sûr, il y a eu la guerre, il y a eu les répercussions du conflit israélo-palestinien très profondément. Parce qu'en Amérique, vous savez, les musulmans et les juifs n'habitent pas les mêmes quartiers, donc il n'y a pas de conflit. En France, ils habitent encore les mêmes quartiers. Moins, mais ils habitent encore, les pauvres, je ne parle pas des gens qui habitent le 16e. Donc le conflit est plus chaud, tout le temps chaud, et il ne s'arrête jamais. Voilà, si vous avez des questions, vous me dites. J'ai parlé 1h05. je mets mon casque.
Vous pouvez poser les questions en catalan ou en français ou même en espagnol, je pense.
Parce ou en anglais.
Ou en anglais. Pas en russe.
Il n'y a pas de russe, là.
Je ne sais pas. Nous ne savons pas. On ne sait jamais.
Ça, c'est les je langues.
Quels numéros sont ? Numéro 2. Deux.
Moi, je ne suis pas douée, mais peut-être...
Moi non plus, alors. Nous sommes deux. deux hein. C'est comme ça.
Attendez,
hein.
Ça doit être
non,
là.
C'est ça.
Oui, channel.
C'est channel. Un, deux, un, deux.
Non, alors, je sais pas, moi.
Si vous...
Moi, j'ai le volume, bon. Mais pas le... Ah, voilà, un, deux. Voilà. Hein? Oui, je vous entends.
Si vous avez alguna pregunta... Non, ce n'était pas un signal, je crois.
Moi? Non, eux, hein? Oui. Bon, vous avez quand même des questions à me poser. Vous n'allez pas rester comme ça. On ne va pas partir sans questions.
Non, 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 on ne va pas partir.
Hein? Vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de questions pas bonnes. Toutes les questions sont bonnes.
Je suis Milo. Est-ce qu'il y a un microphone? Oh, c'est ici. Oh, pardon, pardon. Però, sisplau, per la gravació, per la gravació.
Vous ferez une petite pratique du français, ce soir.
Ah, sí. Bueno, era en Joan Miró. Bueno, endavant, endavant, endavant. Tenés, comenceu per allà vulgueu. Comenceu per allà vulgueu.
Bon, jo vais essayer de briser la glace pour poser la première question. Alors, avec cette dérivation vers l'idéologie de la position pour ou contre l'Israël, c'est impossible de critiquer le gouvernement israélien, c'est-à-dire, c'est impossible de distinguer entre juifs et pour et contre l'État d'Israël.
Ah oui, enfin, si j'ai bien compris, enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est que à force de ne pas distinguer, un jour, qu'on identifie le juif. Enfin, je parle de la population, que la population n'identifie le juif qu'à Israël. Et c'est à ce moment-là qu'arrivera ce qui est en train d'arriver en Amérique, où les juifs vont se distinguer. Pour se distinguer d'Israël, ils ne vont plus le soutenir. Là aussi, c'est une catastrophe. Moi, je suis pour l'existence d'Israël et pour un État palestinien. D'accord ? Je ne suis pas moi pour que... Moi, j'ai grandi en Israël, j'ai ma famille, je suis liée à Israël, je suis pour l'existence d'Israël. Mais si ça continue, les Juifs vont se détacher d'Israël. Un jour, ils vont se détacher. Ils ne vont pas subir toujours toutes les critiques qu'on fait à Israël, parce qu'ils s'identifient. Un Juif qui regarde la télé, et s'il voit quelque chose sur Israël, il dit... Oh non, c'est pas possible. Regarde ce qui se passe. Il s'identifie. Je sais pas, un Espagnol ne s'identifie pas à tout ce que se dit dans toutes les télévisions du monde sur l'Espagnol. Il y a le patriotisme. Si on dit que le jambon de la région n'est pas bon, on prend ça très mal. C'est l'orgueil régional. Mais bon, d'accord, c'est pas la même chose. Donc, des deux côtés, c'est mauvais. Et c'est pour ça que... Et les gens qui critiquent Israël sont des traîtres. Ils sont considérés comme des traîtres. Et on les appelle les traîtres. C'est terrible. Par exemple, on nous empêche... On nous envoie pas les jeunes gens pour étudier. On nous empêche de vendre nos livres. On nous boycotte dans les librairies. Là, par exemple, on a annulé un débat de Stéphane Hessel... moi je suis contre le boycott d'Israël tel qu'il est pratiqué. Je suis pour le boycott peut-être des produits venant des territoires, etc. Mais Stéphane Hessel, qui est un grand monsieur de 94 ans et qui a boycotté Israël, il va avoir un procès. Et bon, il a fait une réunion, il devait faire une réunion, je crois, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, et l'organisme des institutions juives, l'organisation des institutions juives, a appelé, a fait annuler le débat. Et là, par exemple, on a annulé, les institutions juives ont fait annuler la célébration de l'écrivain Céline. C'est vrai, Céline est un antisémite, d'accord, mais on aurait pu mettre, parce qu'il y a un livre où on met toutes les commémorations, on aurait pu dire grand écrivain mais antisémite. Si on supprimait tous les écrivains antisémites, on n'aurait plus d'écrivains. Il y en a eu beaucoup. On ne va pas écouter Wagner et on ne va pas lire ça. Bon. Enfin, il y a des proportions quand même. Il y a un dépassement parce qu'on est dans cette sorte de folie en se disant que voilà, les antisémites sont là, ils vont empêcher de vivre les juifs. Et les Israéliens disent tout le temps la même chose, ils sont là, ils vont nous détruire. C'est exactement la même position. Est-ce que j'ai répondu, monsieur, un peu ?
J'ai vu que dans certains blogs à Internet, on parle de traite quand on parle d'Israéliens qui critiquent le gouvernement d'Israël.
Bonsoir.
Bonsoir.
À votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles la France, parfois la plus grande autorité morale pour parler du conflit du Moyen-Orient, je veux dire, des États-Unis ont plus puissance militaire et politique, mais quand il faut avoir des balances, toujours la version française c'est la plus écoutée parce que c'est réflexif et écoute de l'autre côté.
Je ne sais pas si elle est la plus balancée, la plus écoutée. Tout le monde s'en fiche. Non, mais l'Europe, les Palestiniens, ils sont... Enfin, je ne sais pas, les Palestiniens reçoivent l'argent de l'Europe, donc ils ne critiquent pas trop l'Europe. Bon, ben, l'Europe n'est pas une autorité. D'ailleurs, dans le conflit, l'Europe ne sera jamais une autorité. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'Europe ? L'Europe ne fera jamais, ne fera pas des pas audacieux. Pour la paix, il faut de l'audace. Là, j'avais dit à monsieur, je reçois pendant un mois l'intellectuel palestinien à la Sorbonne dans notre cours, à nous deux, avec Jean-Christophe Attias, nous recevons Sarine Ousseibeh, et qui est un des grands intellectuels palestiniens, qui a été actif à l'OLP. Le type est déprimé. Il a donné une interview au journal Le Monde en disant ouais, bon, comme il n'y aura pas la paix, au moins qu'on nous donne la sécurité sociale, qu'on nous laisse vivre tranquillement. Vous imaginez, il n'est plus à l'idée d'État, il est en dessous. Il dit voilà, qu'on nous laisse vivre, que les veuves aient une pension, que les gens puissent aller chez le médecin. Voilà, on en est là. Moi, je pense que je rentre d'Israël, et de nouveau, les Palestiniens n'existent plus en Israël. D'ailleurs, on ne l'appelle pas Palestinien. Et on l'appelle l'Arabe.
Ah, oui. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les pays arabes de la région, pas les Palestiniens?
Les pays arabes, je ne sais pas, mais enfin, on a vu avec Wikileaks là, que quand même l'Arabie Saoudite et tout ne soutenait pas trop... les Palestiniens, quand même. Mais enfin, il est fort probable, peut-être nous, on ne le verra pas, peut-être que notre génération ne le verra pas, mais il y aura une solution autonome dans la région, qui viendra de la région, probablement. Je n'en sais rien. Enfin, moi, j'ai une idée, mais mon idée, personne ne l'écoute. Mais c'était une idée qui avait un petit peu été discuté au début du XXe siècle. C'est une idée peut-être de fédération. Gaza, les territoires et Israël, qui seraient des fédérations autonomes. Et ensuite, après 10 ans, enfin, Israël donnerait la pension, la sécurité sociale, etc., comme indemnité pour les réfugiés. Et ensuite, peut-être au bout de 10 ans, une structure à la Suisse. Ça avait été discuté par les sionistes eux-mêmes. Mais ça, c'est possible dans la région, avec le contexte de la région, sans l'Amérique et sans l'Europe. Mais enfin, l'Europe est dans la totale incapacité. Tant qu'il y aura des survivants du génocide, l'Europe ne fera pas grand-chose, je ne crois pas.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je voudrais faire
vous pouvez parler en catalan.
Bon, j'espère que vous me comprendrez bien.
Oui, sûrement.
Bon, je voulais faire une question, mais d'abord, quand vous avez parlé des Arabes qui sont autour d'Israël, je ne pense pas comme vous, parce que je pense qu'il y a dans les pays arabes, il y a la bombe nucléaire, il y a tout ce genre de violence. Alors, tout ça, je pense que ça ne donne pas de la tranquillité dans la zone. C'est plutôt que je pense que les Juifs en Israël, ils sont dans les risques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez à ça. Parce qu'ils sont terriblement confrontés, les deux communautés. Bon, alors, ça, moi, c'est une question à parler. Mais je voudrais d'abord vous demander, vous parlez des institutions juives en France, je pense, et vous parlez tout le temps des institutions. Je voudrais savoir quel genre d'institutions elles sont et qui c'est qui le forme et quelle est son influence et puis tout ça. Et puis après ça, moi aussi, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'en France, la communauté juive, elle travaille ou elle fonctionne mais totalement fermée, parce que de vos paroles, je pense que vous avez parlé comme si c'était un bloc, qu'il n'y a pas des juifs qui ne pensent pas à ça. Il n'y a pas des juifs qui pensent librement et qui ont un critère pas le même, différent. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça?
Alors je commencerai par votre première question. Pour vous répondre, la première question, vous savez, la bombe atomique, oui, il y a la bombe atomique, Israël aussi a la bombe atomique. Oui, mais enfin, écoutez, on ne va pas quand même nous dire que l'Iran, un beau jour, va faire on peut penser tout ce qu'on veut de l'Iran, ce n'est pas un régime qu'on soutient, loin de là, mais enfin, pensez-vous que l'Iran va lancer la bombe atomique pour se détruire? Non, mais c'est pas parce que c'est un Iranien que c'est un imbécile. Non, mais c'est vrai, c'est aussi toute cette imagerie. Voilà, tous ces présidents iraniens, ils sont tous des sauvages, non éduqués, des barbares. Bah, écoutez, l'Iran n'a aucun intérêt à lancer la bombe atomique dans l'état actuel des choses. Hein. Israël a la bombe aussi, hein, appuie sur le bouton et c'est fini. Oui, bah, qui est-ce qui a intérêt aujourd'hui de faire un second Hiroshima?
Personne.
Bah, c'est, sauf qu'il y a quelques... Moi, j'entends des juifs radicaux qui disent « Oui, bah, il faut jeter une bombe comme à Dresde, il faut détruire la Palestine, ou sinon il faut jeter, je ne sais pas, il faut faire un Hiroshima, comme ça les Arabes apprendront. » Et bon, les Iraniens, c'est vrai... ils jouent avec l'Europe, avec leur bombe atomique, mais elle servira à quoi? Enfin, je ne comprends pas politiquement quel est leur intérêt. Bon, deuxièmement, quand je parle de communauté, je parle, moi, des organismes juifs qui sont constitués d'associations. Hein, on ne sait jamais leur nombre parce qu'ils ne le donnent pas. Il y a une vingtaine, une trentaine de personnes qui travaillent, mais ils font beaucoup de bruit. On n'a pas besoin d'être nombreux pour faire du bruit. Mais c'est des... Enfin, elle représente politiquement, le CRIF représente politiquement les Juifs de France, je ne peux rien. Qu'ils soient 20 ou 50, quand ils appellent au téléphone, eh ben, les autres ont peur. Ils annulent les conférences, ils annulent parce qu'ils se disent on ne veut pas avoir de problème avec les Juifs. Ils raisonnent comme ça, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mais enfin, moi, en tant que juive responsable, et qui n'a jamais caché son judaïsme, moi je ne veux pas que les institutions interviennent comme ça auprès de l'État, etc. C'est ça qui crée de l'antisémitisme. Parce qu'on dit qu'il y a un lobby juif. Et ce n'est pas des vrais lobbies. En Amérique, les lobbies ont un argent fou. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des petits lobbies, mais ils font peur quand même. Et troisièmement, bah, écoutez, madame, votre question, elle est très juste. Eh bien, je vais vous dire, il y a très peu de gens qui ne suivent pas la politique de la communauté. Ils sont peu nombreux ou on ne les entend pas. Quand vous écrivez un article où vous critiquez Israël, vous avez, je ne sais pas, 400 commentaires, des insultes. Et les autres ne peuvent pas parler. Ils ont peur. Je ne sais pas quel est le nombre de gens qui soutiennent à 100%. Est-ce que c'est toute la communauté ou c'est une majorité de la communauté? En tout cas, tous ceux qui prennent la parole, eh bien, on les bannit de la communauté. Vous n'avez plus d'étudiants, vous ne vendrez pas de livres, et ils vous embêtent, ils vous font des caricatures dans la presse moche, enfin, des trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est pour vous dire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à se battre? Ils se taisent. Mais depuis ce qui est arrivé à Gaza, il y a eu un changement. Ça, c'est évident. Là, il y a eu chez les Juifs aussi une partie qui ne soutient plus la communauté. C'est évident. Parce que les gens ont été choqués, quand même. Voilà ce que je peux vous répondre.
Merci.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Chez nous, dans la presse, il y a, dans les médias, il y a aussi des journalistes qui répondent comme s'ils étaient piqués, ils avaient reçu une piqûre, chaque fois que quelqu'un parle contre l'État d'Israël. Et ils font toujours le jeu, c'est une critique antisémite. À propos de ça, je voulais vous demander, vous croyez que l'État d'Israël paye des journalistes en Europe?
Non. Non, je ne crois pas, non. Les sionistes sont payés au 19e siècle, mais pas maintenant. Je ne crois pas.
Parce qu'on dit ça ici, hein.
Oui, on dit ça parce
ça,
que...
Ça, c'est l'idée c'est... du complot juif, mmh. Voilà. Le protocole des sages de Sion, le complot juif.
Non, non.
Vous croyez qu'ils paieraient? En revanche, je vous répondrai qu'ils payent certains juifs qui n'ont pas de travail pour venir, pour parler comme des experts dans la presse. Ça, oui. Ça, oui.
Comme des experts sur quoi?
Sur Israël. Oh. Ça, oui. Des jeunes gens sortis des universités qui n'ont pas de travail, mais qui sont quand même pas bêtes, quoi, des gens. Bien, ils les payent. Ça, c'est connu. Mais les journalistes, non, je ne crois pas.
Même pas étrangers, parce qu'elles...
Oui, je parle de ça, oui.
Parce
non.
qu'il y a des journalistes chez nous qui, après, ils voyagent en parlant sur l'Israël, en en Argentine ou n'importe quoi.
Et on se demande...
Et là, moi, je me demande s'ils sont payés par l'ambassade, simplement ça.
Ah, peut-être en Espagne.
Parce que la web de l'ambassade en Espagne... Oui. Non, terrible aussi.
Non, mais en France aussi, mais je ne sais pas étrangère. S'ils vont jusque-là, parce que là, si c'est découvert, c'est gravissime. Mais ils leur font peut-être un voyage, ils les amènent d'abord à Yad Vashem, type pendant 15 jours, il ne peut plus parler parce qu'ils l'ont horrifié. Vous voyez, c'est peut-être plus de la propagande, la pression morale... Croyez qu'ils les payent. Ça, c'est un peu le complot, hein, l'idée du complot.
Oui. Et après, encore une autre question.
Pourquoi différente. Pas, oui, pourquoi s'ils pas. Ont payé au 19e siècle, je me dis pourquoi pas, peut-être.
Parce que même dans le monde, il y a des complots.
Mais ils payent les journaux juifs, ça, c'est vrai. Ils payent les journaux juifs. Ils vivent de quoi, les journaux juifs? Ils vendent combien? Je ne sais pas, 500 exemplaires. Ils doivent payer les journaux juifs. Mais je vous ai dit, ces experts, ils jouent un rôle très important. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien? Ils vous répondent en vous regardant. C'est une très bonne chose, il y aura la paix. Enfin, avec ces derniers pourparlers, il y aura la paix. Mais personne ne croit qu'il y aura la paix. Comment ils vont faire
la
paix ?
C'est la propagande, c'est la propagande.
Alors, ça, c'est vrai, à la télé, etc. Donc, ils influencent les journalistes, ça, c'est vrai. Un jour, c'était curieux, et je raconte cette anecdote parce que ça m'a beaucoup touchée. J'étais à une émission de radio connue, et puis, bon, ben, j'arrive, et puis je vois un monsieur qui était là, qui était un peu mon élève avant, et je savais ce qu'il allait dire. On était en face, il dit exactement ce que je savais qu'il allait dire, oui, la paix, c'est demain, c'est bien parti, etc. Et après, je l'ai vu faire tous les bureaux des journalistes. Moi, je suis partie et je me suis dit, voilà, ça, on n'a pas besoin de payer ça. Le type est allé d'un bureau à l'autre, il a influencé les journalistes qui, pendant 15 jours, 3 semaines, ils vont dire, la paix, c'est pour bientôt. Il y en a un certain nombre comme ça. S'il vous plaît.
Et encore
allez-y.
À propos de la paix, quand on voit la carte de la Cisjordanie, qui est un
gruyère,
c'est impossible de séparer deux États, non?
Oui. Et un État, c'est pas possible non plus, un seul État. Il y a un problème démographique grave. Oui, c'est le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix.
Sí, hola, bona tarda. Volia preguntar en català. Volia fer una pregunta també, segurament arran dels fets de Gaza, va haver tot un seguit de militars israelians crítics en la política del govern. Potser això pot obrir una escletxa i una mica d'esperança a que des de dins doncs, hi hagi veus crítiques també en aquest sentit, en la política que té en el conflicte.
Écoutez, Israël est un pays plus démocratique au niveau du débat qu'en France. Quand on peut critiquer Israël en prime time à la télé. Et ces soldats, oui, c'est une preuve de démocratie malgré tout. Ils ont pu dire on est contre ce qui a été fait à Gaza, etc. Mais de là penser qu'ils vont changer la situation. Mais en Israël, il y a un nationalisme actuellement extraordinaire. Nous sommes les plus forts, les plus grands. Il y a le mur, on est protégés. Le mur est maintenant dans les têtes. L'arabe n'existe pas, on ne le voit pas, le palestinien. À Tel Aviv, on ne le voit pas. À Jérusalem, on le voit, mais à Tel Aviv, on ne le voit pas du tout. On fait la paix avec des gens qui existent, pas avec des gens qui n'existent pas. Pour les Israéliens, le palestinien n'existe plus. Tant qu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est chaque jour pire. Je vous désespère. Mais la situation est désespérante.
Un petit peu, vraiment, vraiment. Ce n'est pas optimisme, ça. Hein? Alguna altra pregunta? Non?
Alors, à Paris, on aurait eu 300 questions, oui. 20 personnes en train de se battre dans
non,
la salle.
Ce n'est pas nécessaire, ça. Alors, c'est pas nécessaire. Hein? Nous sommes pacifiques, hein? Pacifique.
Pas à Paris, avec le juif, conflit Israël, c'est oui, pas oui. possible. C'est, oui. Allez poser quelques questions.
Algú més vol fer alguna pregunta?
Non. Vous, derrière, vous avez écouté attentivement.
Non. No ho deixeu per quan marxi, perquè llavors ja no podrà contestar. Oi? Bon. Si li ha
pas profitez question... maintenant. Si. Après, je vais me mettre à tousser, vous ne pourrez plus. Hein?
Je voulais vous poser une question qui ne va pas autour de la question d'Israël-Palestine. C'est une question autour de... vous avez mentionné l'antisémitisme des écrivains français. Je voulais poser la question de... quelle est l'opinion publique maintenant en France autour de Irène Nemirovsky? Si vous, je sais pas.
C'est la star.
Oui,
la pauvre, elle aurait profité un peu, elle n'a même pas profité.
Non, c'est simplement, je fais mention à partir de la récupération d'Irène Nemirovsky, je lis quelques articles dans Les Mondes qu'on accusait Nemirovsky d'antisémite pour l'ouvrage David Golder. Donc, est-ce que ça donne quelque chose sur la presse en France ou pas du tout? Je veux dire, ça s'est passé ou...
On n'en a pas beaucoup parlé.
Non, d'accord.
Parce que dès que vous devenez best-seller,
oui,
on ne critique plus. C'est le mouvement qui est... Elle a été antisémite, franchement. C'est ne pas connaître l'histoire de France que dire ça. Les Juifs de Français étaient tellement français... qu'on ne peut pas les juger comme aujourd'hui. Ils avaient une idée, l'israélite, le modèle de l'israélite n'a rien à voir avec le juif aujourd'hui. Elle était une israélite, enfin, elle avait une idée de la France, pays des libertés, le pays de l'émancipation. Bon, et dans ces années 30, je crois que c'est trop facile aujourd'hui de dire elle est antisémite. Elle voyait monter l'antisémitisme. Ces gens-là vivaient convaincus qu'ils étaient des Français. Ils voient monter dans les années 30 l'antisémitisme. Et maintenant qu'on a des lois et qu'il y a eu la guerre et que personne maintenant ouvertement n'est antisémite, bien sûr, ils disent, les gens, ils peuvent être antisémites chez eux. Moi, tant qu'on ne me dit pas sale juif, je ne fais pas de procès d'intention aux gens, d'accord? Mais enfin, c'est trop facile de dire aujourd'hui de la juger comme antisémite. Elle voyait les petits juifs arriver d'Europe de l'Est avec Peyès et Streimel. Elle avait peur. Elle se disait, il y a déjà de l'antisémitisme, si ces gens-là, avec leurs costumes et tout, provoquent encore plus d'antisémitisme, qu'est-ce qu'on va devenir? Elle fait partie de ces Israélites. À ce moment-là, on peut ouvrir les dossiers des grandes institutions juives qui avaient les mêmes peurs. Elles donnaient de l'argent aux pauvres à Belleville et dans des quartiers populaires pour qu'ils enlèvent le costume et qu'ils ne se promènent pas comme ça et qu'ils aillent travailler et qu'on ne les voit pas comme juifs. Parce qu'ils attiraient l'attention. C'est comme aujourd'hui, tout le monde parle du foulard. À l'époque, on parlait du streimel, de trucs. Et du costume et des paillettes, c'est incroyable. Et on la juge comme ça. Bon, ça n'a pas donné, ça n'a pas. Et en Amérique, ça n'a pas du tout marché, ce genre de choses. Elle est la star. Il y a 2 ans, non? Il y avait l'exposition Nemirovsky. Elle est la star.
Maintenant, elle est l'exposition. Oui, best-seller. Mémorial Shoah.
À Paris, mais moi, je l'ai vue en Amérique. Avant.
À New York.
À New York.
C'est vrai qu'ils investissent beaucoup en Israël maintenant, non? En argent et, ou non? On a parlé que les Américains, ça
je
marche,
ne sais pas.
Non? Des fondations, des institutions.
Et les fondations n'ont plus d'argent, elles ont perdu chez Madoff. On a fermé les fondations en Israël. Beaucoup de fondations. Ben oui. En Israël, on nous avait parlé de la Shoah de la culture avec Madoff. Ah ben oui, ils ont perdu l'argent et il n'y a plus d'argent. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Parce que les fondations juives ont été les premières à être touchées par Madoff.
Et alors la relation avec les communautés juives américaines, avec Israël, c'est comment?
Comme toujours.
Non?
Mais il y a là-bas aussi, ils sont pro-israéliens, etc. Mais enfin, là-bas, il y a plus de critiques qu'en France, quand même. Bien sûr que c'est une communauté de 6 millions de juifs, c'est important. C'est des gens qui ont réussi, qui possèdent le capital, etc. Donc, ils ont leur mot à dire. Même s'ils ne vont pas s'installer et migrer en Israël, ne croyez pas. Mais c'est quand même une force économique. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je vous souriez.
Je voyageais qu'une seule fois. Parce que j'ai vu beaucoup des bénéficiaires, comment on dit, américains, sur les fondations, les musées, les, tout ça. Ici, c'est Madame Rothschild, c'est, je ne sais pas, on le voit partout dans les...
En Amérique?
Non, en Israël, à Jérusalem.
Ah oui, mais c'est parce que c'est eux qui donnaient de l'argent tant que Madoff ne les avait pas ruinés.
Mais c'était avant Madoff.
Oui, c'est ça.
Oui.
Ben oui. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de catastrophe.
Ah bon, d'accord.
Bien sûr, ils ont, c'est les Américains qui donnaient. Même à l'université, chaque marche, c'est M. Goldstein, après c'est Mme Rubinstein, parce qu'ils donnaient de l'argent. Mais il y a une relation, bien sûr, très étroite entre les Juifs américains et les Juifs et Israël.
Ils n'ont pas vivre là-bas, mais ils ont aidé beaucoup,
oui,
non?
Oui, ils ne vont pas, parce qu'ils ne vont pas trouver le même confort qu'en Amérique. En Israël, la vie est très dure.
J'imagine. Molt bé, si no hi hagués res més, vull recordar simplement que l'exposició aquesta de la Càtedra Ferreter Mora dura fins diumenge, que el cicle que avui ha començat, diríem aquí, de la premsa a Europa, diríem, i en general sobre el tema jueu a la segona meitat del segle XX, continuarà el febrer, el març, l'abril i el maig, l'últim dijous de cada mes, al CALL, oi? A la seu de l'Institut d'Estudis Nachmànides. I agrair moltíssim la presència de tots vostès. Ça a été vraiment un plaisir.
Nous partons
pas très optimistes, mais je crois que c'est pas important d'être optimiste,
non,
ou pessimiste. L'important, surtout la lucidité. Il faut être lucide. Ça me suffit. Merci bien, madame.
Merci.